Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair. C'est parti pour le festival de Cannes en grande pompe après deux années de crise sanitaire. Mais justement, le confinement n'a-t-il pas changé nos habitudes en matière de films ? L'Info C'est Clair est intitulé Cannes, le cinéma menacé par Netflix. Nos invités, François Saltiel, vous êtes producteur à France Culture, auteur de la société du Sans Contact, c'est chez Flammarion.
Bonjour.
Bruno Crasse, chroniqueur cinéma Radio Classique, on vous appelle le monsieur cinéma de Radio Classique. Et puis Gaël Sliman, président cofondateur d'Odoxa, votre sondage en partenariat avec Logical Picture, festival de Cannes vers un rebond susceptible de rebooster l'attrait pour le cinéma. Vous nous parlerez de votre grande enquête. Mais tout de suite, c'est donc la 75e édition du festival de Cannes qui a démarré hier après deux années de Covid. On sent un véritable enthousiasme sur la croisette, sujet de Sabine Gorny et Nathalie Berthier.
Cannes 75e, c'est parti.
Pour preuve, le célèbre tapis rouge déployé sur les 24 marches les plus connues au monde. Et depuis l'aube, les chasseurs de stars, ceux qu'on a surnommés le gang des escabeaux, défendent chèrement leur place pour tenter d'apercevoir...
Je voudrais bien voir Tom Cruise.
Marion Cotillard, Virginie Elfira.
Vincent Lindon aussi. C'est pour mes grands-parents, ils aiment ça.
Tapis rouge sang, qui s'est mis au diapason des flots d'hémoglobine déversés pour de faux dans le film d'ouverture.
Saloperie de zombie !
On voit que tu joues, mais en plus on voit que tu joues mal.
D'abord, on voit un très mauvais film, et puis on comprend pourquoi ce film est mauvais et comment on l'a fait. Donc c'est vrai qu'on propose aux spectateurs de voir des choses qu'ils ne voient jamais.
Dans les palaces aussi, c'est le grand jour, avec l'arrivée des vedettes qui vont avoir pendant deux semaines cette jolie vue sur mer. Et pour ces clients VIP anonymes, le personnel est aux petits soins.
Alors ça, c'est notre petit accueil pour le festival. Sac de plage, éventail et drap de bain.
Des clients fortunés qui ont tous leur lubie.
Cette personne aime le rose et les roses, donc nous lui avons fait un joli bouquet de roses roses et avec des gâteaux roses.
Lui aussi voit la vie en rose. Depuis 20 ans, Christophe Guillarmé déménage à Cannes, son vestiaire de rêve.
C'est incroyable qu'il y ait plus de 45 robes et je ne vais pas en avoir assez.
Dernier briefing avec son équipe, avant les essayages cet après-midi.
C'est avec un carré. Je sais pas qu'est-ce que tu peux lui proposer comme coiffure. Il faut qu'on mette un bijou très flash. Tu peux nous montrer un bijou ?
Des robes de princesse que les actrices s'arrachent. Wow. Effet waouh garanti sur le tapis rouge.
Waouh. Go big or go home. C'est-à-dire, il faut y aller vraiment avec une robe énorme, sinon on rentre chez toi.
Ainsi va le festival, 75e du nom, qui chaque année réussit à faire rimer croisette avec star et paillettes.
Alors justement, on part à Cannes avec vous, Samuel Douer. Bonjour, donc vous êtes bien à Cannes, vous êtes rédacteur en chef écran à Télérama. Vous venez d'y arriver. Bah, racontez-nous ce qu'on fait à Cannes quand on est journaliste cinéma. Quelle est votre journée type là ? Qu'est-ce que vous allez faire en nous quittant ?
En vous quittant, je vais retrouver mon équipe pour faire notre réunion quotidienne. Et puis ensuite, on se répartit pour voir le maximum de films possibles. On fait des interviews. La journée d'un journaliste à Cannes, ça démarre à 8h15, 8h30 avec une projection, sauf ce matin pour moi. Et ça continue toute la journée jusqu'à minuit, 1h du matin parfois, puisque la dernière projection du film en compétition, le soir, elle est à 10h30 ou 11h moins le quart.
Alors, ce sont des films venus du monde entier, mais ce sont des films... Cannes exige que ce soit des films qui soient sortis en salle. Il n'y a pas à Cannes de films issus de plateformes, là, des Netflix, Apple TV, etc. ou Amazon Prime.
Alors, pas de films en compétition. C'est-à-dire que les films des plateformes sont les bienvenus hors compétition, en séance spéciale, mais en compétition, pour concourir pour la Palme d'Or, il faut effectivement que le film que les distributeurs du film s'engagent à sortir le film en salle en priorité. Et donc, Netflix ne veut pas, donc il n'y a pas de film Netflix.
Ça fait débat entre journalistes.
Ça fait Ça fait débat, oui, effectivement, puisqu'il y a eu un précédent en 2017 où il y avait eu deux films Netflix qui avaient été en compétition, Okja de Bong Joon-ho et The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach. Il y a eu une vraie polémique à l'époque. Les exploitants de salles ont fait pression pour que ça ne se reproduise plus. Et depuis, le règlement du festival stipule qu'un film doit sortir en salle pour concourir à la Palme d'Or. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus des films importants qui sont sur les plateformes, qui ne vont pas à Cannes et qui donc se retrouvent notamment à Venise. L'année dernière, Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, aurait adoré pouvoir présenter à Cannes The Power of the Dog de Jane Campion. Et le film a été, il n'a pas pu le présenter, donc le film est allé à Venise où il a obtenu un prix important. Donc effectivement, entre journalistes, on débat beaucoup de ça. On pense qu'il y aura très probablement un compromis qui va être négocié avec l'arrivée d'une nouvelle présidente du Festival de Cannes, un compromis entre le festival, les exploitants de salles et les plateformes comme Netflix pour que, peut-être pas l'an prochain, mais d'ici 2 à 3 ans, des films plateformes comme ceux de Netflix puissent concourir pour la Palme d'Or.
Samuel Douer, dernière question en attendant. Il y a donc des films français que vous allez voir. Est-ce qu'il y a déjà entre vous là, des films favoris, vous dites, des films attendus et on se dit, tiens, lui, il aurait une bonne tête de vainqueur pour la Palme 2022?
Alors, il y a quelques grands noms, des films de grands noms. Donc, il y a le film de James Gray qui sera présenté demain, qui s'appelle Armageddon Time, avec Anne Hathaway et Jeremy Strong. Alors, James Gray, il a été souvent en compétition à Cannes, il n'a jamais rien gagné. Ce sera peut-être son année avec un film qu'on annonce comme très personnel. On verra cet après-midi le nouveau film de Kirill Serebrennikov, donc cinéaste russe dissident, qui a eu un prix l'an dernier déjà pour son film précédent. Là, c'est un film qu'on dit être un petit peu plus accessible que le précédent, donc il pourrait aussi être primé. Les films, on va les découvrir au fur et à mesure. On n'a pas pu en voir beaucoup avant le festival, et de toute façon, même si ceux que j'ai vus, je ne peux pas vous en parler tant qu'ils n'ont pas été projetés à Cannes. Donc il y a des très belles choses attendues.
Merci beaucoup Samuel Doer, rédacteur en chef écran à Télérama. Merci Bruno Kras, vous me disiez tout à l'heure, vous avez enchaîné, vous étiez à Cannes 40 années d'affilée, vous les avez
fait. Oui, jusqu'en 2019. C'était mon 40e festival.
Vous reconnaissez parfaitement, là, dès 8h15, on enchaîne les films. J'ai une question. Est-ce que c'est un plaisir que de voir comme ça autant de films dans la journée? Il y a beaucoup de gens qui vous disent, mais t'as une chance incroyable. Ou est-ce que c'est un travail et à la fin, c'en est même fastidieux?
C'est drôle, ça me fait penser à la réplique de Truffaut dans le dernier métro. Est-ce que c'est une joie, une souffrance de vous aimer? C'est une joie, une souffrance, voilà. Non, c'est un grand plaisir parce que vraiment, les 21 films en compétition, c'est le cas cette année, ce sont pour moi les meilleurs de l'année. Ils viennent de tous les pays du monde, avec un écho, le pouls de la société internationale, c'est très beau. Et c'est un travail parce que c'est vrai que c'est assez épuisant.
On prend des notes pendant le film?
Je prenais des notes avant avec un petit stylo lumière, tout au bout de la pointe, il y avait lumière, mais non, on les prend après. Et puis, pour se souvenir un petit peu au moment du palmarès. Mais c'est vrai que c'est un travail, c'est fatigant parce qu'on se lève à 6h30 du matin, surtout à la radio. Et puis, on se couche, c'est vrai, à minuit, 1h. Mais bon, on peut pas se plaindre. C'est comme si on courait à travers la croisette avec un verre de champagne qui pétille à la main. Donc, tout va bien.
On va revenir sur la compétition des séries, des films qui sortent uniquement sur les plateformes. Mais d'abord, on reste sur le Festival de Cannes, Gaël Sliman. Est-ce que ça reste un événement pour les Français et même à l'international, ou est-ce qu'on se gargarise un peu ça n'est connu qu'en France, quoi, le Festival
que
de Cannes.
Que dans le sud-est de la France.
Voilà.
On est vraiment sur un événement majeur. Le baromètre que nous réalisons sur le cinéma, les séries avec Logical Pictures, a été fait au niveau international. Donc, on a interrogé les Français et les habitants des principaux pays européens voisins de la France. Et ce que l'on enregistre, c'est exactement ce que disait Bruno Kras, c'est tout ça à la fois ce qu'on entendait aussi. C'est le bling-bling, le show-off, les paillettes, la superficialité, nous disent 60% des Européens et 74% des Français. Donc ça, c'est pas bien.
Mais c'est en pas même bien, temps, ça a une connotation négative.
Bling-bling, bling-bling et superficiel, c'est négatif. En revanche, c'est incontestablement pour tout le monde l'un des plus grands événements mondiaux autour du cinéma. Ça, c'est ce que nous disent plus des trois quarts, non seulement des Français, mais aussi des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Britanniques. Donc c'est quelque chose d'énorme. Et c'est un événement pour les deux tiers des Européens et les trois quarts des Français qui participent au rayonnement de la France dans le monde. Et donc ça a une puissance telle, c'est pas compliqué en fait, plus que le sondage, il suffit de voir l'intervention de Volodymyr Zelensky hier pour comprendre ce que véhicule Cannes. à quel point ça a une importance capitale. C'est une caisse de résonance extraordinaire. Et c'est bien pour cette raison que, si on regarde les interventions de Zelensky, d'ailleurs, il a essayé de les faire là où ça avait le plus de poids, aux États-Unis, au Parlement européen, et puis là, à Cannes. Donc, bien sûr que c'est quelque chose de très important. Et dans notre étude, on voit que, ben mine de rien, les sélections, les palmes d'or, de la même manière que les Oscars, c'est quelque chose qui donne envie d'aller voir un film pour plus de 4 personnes sur 10, quasiment la moitié d'entre eux. Le fait de dire, tiens, il a eu la palme d'or,
ah,
ça a un petit effet. Et à un moment où on en parlera, le cinéma est un peu en difficulté, on va dire, en termes de fréquentation, et la tendance n'est pas forcément très bonne. Le fait d'avoir ce petit boost-là, cet élément rehausseur ou exhausteur de goût, c'est quand même pas mal.
Alors justement, François Saltiel, c'est la reprise de Cannes après 2 années de crise sanitaire. Et c'est vrai qu'on a un cinéma qui peine à retrouver son public. Les chiffres du CNC, on est toujours 34% au premier trimestre. Hein. Ben, on est 34%, alors qu'il n'y a plus de confinement. Hein. Ben, on a perdu le cinéma a perdu un tiers de sa fréquentation en salle par rapport à 2019, donc par rapport à l'avant-Covid. Les cinémas peinent à retrouver la fréquentation d'avant. C'est une réalité. Le cinéma ressort fatigué de ces 2 années de Covid.
Le cinéma a été éprouvé, hein, comme beaucoup de secteurs effectivement de la culture par la crise sanitaire. Après, ce qui est peut-être en filigrane de votre question, c'est quel peut être l'impact justement des plateformes et de Netflix.
Parce que qu'a-t-on fait pendant ces 2 années? On s'est abonné à des plateformes.
Alors déjà, les plateformes étaient déjà là avant, donc c'est déjà quand même une tendance d'avoir une sorte de concurrence, peut-être surtout pour un public jeune. Je pense qu'il faut arriver à distinguer aussi des gens qui ont connu le plaisir de la salle, qui fait partie de leur culture, de leurs habitudes, qui ont grandi finalement avec cette communauté tous ensemble face à un grand écran et qui ont été habitués finalement à cette expérience et qui en retirent beaucoup de plaisir. Et puis peut-être une nouvelle génération qui a grandi aussi avec l'arrivée des plateformes et qui a pu découvrir aussi le série et le cinéma autrement, c'est-à-dire de manière déjà moins chère, hein. C'est un abonnement pour Netflix, ça coûte quasiment le prix d'une place de cinéma, de manière illimitée, avec une offre assez pléthorique, alors pas forcément dans le cinéma, plus dans les séries, hein, par rapport à Netflix, mais on a quand même toute une nouvelle génération de gens pour qui le cinéma peut aussi se consommer de manière individualisée, sur tous les écrans, s'arrêter quand ils veulent, reprendre quand ils veulent.
Je maîtrise mon film,
je maîtrise mes dépenses, et donc la crise sanitaire a accéléré, évidemment, le processus de la consommation des plateformes. Là, tous les chiffres l'ont montré. D'ailleurs, Netflix a connu une ascension fulgurante au moment de la crise sanitaire. Aujourd'hui, ils en payent les prix puisque la plateforme va un peu moins bien. Ils perdent des abonnés, ils doivent se renouveler, ils font une sorte de crise de croissance. Et pendant très longtemps, ils ont bien sûr bénéficié de cette crise sanitaire. Donc, toute la question est de dire, maintenant qu'on en est, je l'espère, sorti, quelles vont être l'habitude de ces jeunes générations? Est-ce qu'elles vont retourner au cinéma? Quel intérêt vont-elles y trouver? Quel plaisir de la salle vont-elles rencontrer? Quel genre de film vont-elles pouvoir aller voir? Donc c'est toute cette interrogation.
Bruno Kras, je vous laisse répondre, mais d'abord on regarde ce phénomène, puisque plus de la moitié des Français maintenant sont abonnés à une plateforme. Donc je repose votre question. Est-ce que les Français vont retourner au cinéma ou est-ce qu'ils ont pris définitivement des habitudes et vont regarder les films sur les plateformes? Eh bien voyez ce reportage sur le succès croissant de ces séries diffusées sur les plateformes. On regarde.
Depuis 4 ans, Rovena Ori Arnautovic ne peut plus s'en passer. Sur son écran défilent les dizaines de séries englouties. Par soir, elle peut regarder jusqu'à 3 épisodes.
Particulièrement en ce moment, je regarde Glow, donc c'est cette série-là. Et j'aime bien parce qu'en fait, on est dans les années 80-90, donc c'est les premières filles à faire du catch.
Cette passion peut même empiéter sur son goût pour le cinéma.
Il peut m'arriver d'avoir un cinéma de prévu un soir et finalement d'annuler parce que je préfère regarder une série chez moi tranquillement. L'avantage, c'est ça aujourd'hui, c'est qu'on peut regarder dans notre canapé à peu près toutes les séries possibles et imaginables.
Le concept est d'abord né sur papier avec les premiers romans feuilletons, comme Les Mystères de Paris d'Eugène Sioux. Puis le petit écran diffuse les petits formats, Thierry Lafronde, Belle et Sébastien. Et en 1994, Friends, un phénomène mondial. À l'époque, ces séries coûtent moins cher que le cinéma, à l'image de Dallas.
Les décors sont assez simples, les costumes par exemple, bon, c'est les habits, on va dire, du quotidien ou les espaces du quotidien, donc ça ne devait pas être trop cher à filmer en termes de décors et costumes.
Aujourd'hui, les budgets explosent.
Bah oui, on ne va pas se voiler la face. On regarde plus de films chez soi avec ces plateformes et on va moins au cinéma.
Oui et non, parce que les chiffres sont paradoxaux. Moi, j'ai bien regardé depuis des mois. On se plaint, on dit le cinéma marche pas très bien, etc. C'est un peu un faux semblant. Vous savez que dans le box-office international, films français, films américains mélangés, sur les 30 premiers films, il y a déjà presque la moitié de films français. Ce qui est rare, c'est-à-dire que la part du marché aujourd'hui du cinéma français est plus importante que celle du cinéma américain. C'est pas arrivé depuis des années. Donc déjà, c'est plutôt un cocorico pour nous. Et puis, ces 15 premiers films français, ça part de Kaamelott, ça va jusqu'à Illusion perdue, en passant par Les Tuches ou Bac Nord, font 24 millions d'entrées. Depuis août dernier jusqu'à aujourd'hui, il y a 24 millions d'entrées avec 15 premiers films français. Donc, le cinéma ne va pas si mal que ça. Et moi, c'est pas parce que je défends le cinéma, mais je pense que j'étais très étonné, moi, qui ai 40 ans de métier, par la façon dont le cinéma a quand même résisté à la pandémie. Les gens continuent à aller dans les salles. Il y a eu 215 millions de personnes qui sont allées dans les salles en 2019. Là, évidemment, ça baisse parce qu'on est à peine sorti de la pandémie. Et moi, je suis très optimiste. Après, les séries ont du succès. Je suis le premier à les regarder, mais parfois à la télé, comme en thérapie. Et quant aux plateformes, alors ça, je vais poser la question aux spécialistes. Moi, je crains qu'elle ne tourne un peu en rond au bout d'un moment. Moi, je suis abonné à Netflix et je suis un peu déçu. Voilà.
Vous trouvez qu'il y a une profusion, etc.
Je n'arrive pas à trouver sur Netflix des choses qui me plaisent.
Gaël voilà. Slimane, le plaisir d'aller en salle, est-ce qu'on se leurre et il va falloir tourner la page ou est-ce qu'on n'est pas mieux chez soi avec sa télécommande? On peut mettre pause, comme le disait François Saltiel. On maîtrise son film.
C'est exactement ça. Alors, est-ce que ça signifie qu'il faut tirer l'échelle et que... Non, c'est que ce qui se passe aujourd'hui avec les plateformes, c'est passé dans l'économie, dans plein de domaines. Internet bouleverse la donne. Et ce n'est pas que ça va tuer l'économie réelle ou l'économie ancienne du secteur, quel qu'il soit, hein, que ce soit pour les transports, que ce soit pour les livraisons à domicile, pour la consommation. C'est que simplement, ça oblige le système à se réinventer. Juste, je voudrais... Avant, illustrer deux choses qui ont été indiquées. On a interrogé dans notre enquête les Français sur est-ce qu'ils vont plus ou moins souvent qu'avant la crise au cinéma aujourd'hui. L'illustration, elle est spectaculaire. Hein. Parmi ceux qui ont modifié leur comportement, c'est à peu près la moitié. Et ceux qui ont modifié leur comportement, c'est 39% qui y vont moins qu'avant et 9% qui y vont plus qu'avant. Donc il y a quand même une propension à moins fréquenter.
À moins aller en salle.
Et la tendance n'est pas forcément bonne. Puisque quand on leur demande ce qu'ils comptent faire dans les mois et les années qui viennent, ceux qui comptent aller moins souvent au cinéma sont à peu près deux fois plus nombreux que ceux qui comptent y aller plus souvent qu'actuellement. Donc il y a bien ce trend. Ce qui ne veut pas dire que le cinéma français ou les productions françaises ne peuvent pas tirer leur épingle du jeu. Ça, c'est ce que vous décriviez, Bruno Kras. C'est-à-dire dans un format sur un 100% de spectateurs, oui, c'est possible que les films français parviennent à attirer leur épingle du jeu et finalement à attirer davantage dans les salles que d'autres films, les spectateurs français et étrangers. Et pour vous répondre, Axel, sur le mode de consommation, c'est exactement ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'en fait, pour se réinventer, il faut considérer qu'il faut proposer autre chose, une autre motivation aux spectateurs que ce qui était le cas autrefois. On a comparé avec...
Vous parlez de l'expérience en
exactement,
salle.
Exactement, l'expérience. C'est-à-dire qu'on a comparé avec une étude qui avait été réalisée il y a 30 ans par un confrère, Ipsos en l'occurrence, et on a regardé aujourd'hui les motivations à se rendre en salle. Les motivations qui explosent le plus, qui progressent le plus, c'est l'idée de l'expérience. C'est une occasion de sortie, c'est un moment privilégié. Un truc qu'on ne peut pas faire devant sa tablette, devant son ordinateur. Ouais. Avant, une des raisons principales qui vous motivait à aller au cinéma, c'était de se dire... Bah, j'ai envie de voir le dernier film sorti parce que sinon, je vais mettre peut-être 2 ans
télé.
Je n'ai pas Canal+, je crois que c'était à peu près ça, 2 ou 3 ans avant de le voir à la télé. Là, ça n'existe plus, cette notion-là. Aujourd'hui, vous ne vous dites pas « Ah, je vais aller au cinéma parce que sinon, le film qui sort et qui pourrait m'intéresser, je vais mettre 2 ou 3 ans à le voir. »
J'ai vu une expérience.
Là, c'est « Je veux vivre une expérience et voir quelque chose qui ne peut pas produire le même effet sur sa tablette. »
Bruno Kras, c'est vrai que la salle de cinéma, c'est l'un des rares endroits où on met son téléphone sur avion. Et si jamais il y a un téléphone qui sonne, c'est la honte quand même, hein, non ?
Oui, mais moi, ce qui me frappe, c'est, je ne veux pas dire que ça va être la mort du grand cinéma, mais ce qui me frappe, c'est qu'on ne va pas au cinéma que pour avoir que du plaisir. Il y a des films qui sont forts, qui dérangent, etc. L'expérience de la salle, c'est quoi ? Vous êtes au cinéma, vous restez la plupart du temps jusqu'au bout, vous allez au restaurant et vous en discutez. Toi, tu n'as pas aimé le film, moi j'ai adoré, on s'engueule. Alors que devant Netflix, on regarde 20 minutes, on zappe sur une série, et après on dit j'ai pas du tout aimé. Bah, forcément, il n'a pas vu le film jusqu'au bout. Donc c'est toute une consommation approche plus... différente. C'est une consommation. Pour moi, le cinéma, c'est le 7e art, c'est pas une consommation. Donc là, on peut se battre là-dessus, mais c'est le 7e art, c'est un art. C'est comme si vous disiez, je vais lire que des bouquins, que des polars, et je vais plus lire de littérature.
Donc,
c'est bizarre.
On regarde pas le on n'a pas le même type de film au cinéma.
Absolument.
Et sur les plateformes.
C'est pas du tout.
Est-ce qu'on n'a pas d'ailleurs une plateformisation des films? Et même une américanisation. Je vois que là, Ouchekine, c'est incroyable, c'est pas les Français qui le font, c'est Disney qui nous raconte notre propre histoire.
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement des passerelles. Il y a beaucoup de liens, en fait, entre la manière dont l'usage du cinéma et même des séries peut se vivre sur une plateforme et la manière dont le cinéma y répond. Je vais donner un autre exemple, parce que Bruno Kras a parlé justement de l'essor du cinéma français, qu'on peut effectivement regarder, observer et puis s'en féliciter. Mais on peut aussi voir, par exemple, la part aujourd'hui que représentent les comics, la part que représentent des films de super-héros comme Spider-Man, Batman et autres. Vous avez bien vu qu'on a l'impression qu'il en sort quasiment un par semaine ou deux par mois, qui trustent une grande partie du marché. Donc ce sont des films grands spectacles qui durent longtemps, mais aussi qui sont par épisode. Parce qu'en fait, la force aussi de ces plateformes, c'est qu'elles se sont surtout plutôt développées sur les séries. Je pense qu'ici, on peut se le dire, l'apport cinématographique d'une plateforme comme Netflix, il est assez faible. Ils vont s'offrir un Scorsese, ils vont s'offrir quelques grands cinéastes pour l'image et pour le marketing.
Ah, mais après, le Irishman ou Leonardo DiCaprio, là, dans Look Up,
c'est exceptionnel.
On ne le regarde pas. Mais bon, non, ça fait chic, mais
il y a deux choses. Déjà, on ne regarde pas beaucoup.
Ça fait chic, mais c'est pas regardé.
Déjà, les chiffres sont faibles. Quand on regarde, en fait, les indices de fréquentation de Netflix, qu'ils ont communiqué, en tout cas, c'est très faible pour ces films-là.
C'est pas les 70 millions de vues de Lupin.
Exactement, c'est pas Lupin, c'est pas marketing. Donc ça fait très bien de dire à Netflix, attendez-nous, j'ai un acteur
Scorsese.
Du cinéma.
Voilà, absolument.
Et c'est pour ça qu'ils aimeraient demain aller aussi à Cannes et pour dire, on va à Cannes, on remporte des prix comme c'est le cas ailleurs, aux Oscars, etc. Donc il y a une stratégie d'image. Mais ce qui fait le fonds de commerce de Netflix, c'est bien sûr une plateforme qui fonctionne sur l'attention. Vous savez bien, c'est l'économie de l'attention. Le but du jeu, c'est que les gens restent le plus de temps possible sur la plateforme. Et qu'est-ce qui fait qu'on reste, qu'on devient un peu accro à sa plateforme? C'est la série. Puisque la série, elle rentre dans notre quotidien. Ce sont des personnages dans lesquels on peut s'identifier. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? On peut regarder, revoir. Donc, la force, en fait, de la plateforme, c'est la série télévisée. Et c'est peut-être ça qui est en train un tout petit peu de reprendre le cinéma. En développant aussi cette idée de l'épisode, des séquelles, des personnages, des spin-offs, etc., d'un personnage qu'on retrouve ici, qu'on retrouve là. Donc, quelque part, le cinéma américain, du moins, va essayer de reprendre un peu les codes
en faisant des sagas,
de faire revenir tout un public qui s'est habitué à l'empathie et à la force des séries qu'il retrouve sur la
plateforme. Et d'ailleurs, les productions des séries, on l'a vu à Sériemania, explosent. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de demandes de séries, les plateformes demandent des séries, et les plateformes, d'après ce que j'ai compris, demandent des séries.
Le cinéma, du coup, se met à travailler pour les plateformes où il y a de l'argent, comme Omar Sy, plutôt que pour le 7e art.
Et les plateformes demandent Netflix, Disney+, des séries locales maintenant.
Bien sûr.
Ils délèguent pour avoir des séries locales, des séries françaises.
En tous les cas, ce qui doit vous inquiéter, Bruno Kras, vous montriez confiance sur la pérennité des salles, c'est que les jeunes vont beaucoup moins en salle. J'ai ces chiffres du CNC. En 1993, les 15-24 ans représentaient un tiers des entrées, 35%. Aujourd'hui, les jeunes n'y représentent plus que 15%. Voilà, on voit le chiffre. De 15% des entrées. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de jeunes dans les salles de cinéma. Avant de vous faire réagir là-dessus, on va regarder, vous vous souvenez, la fête de la musique. Eh ben, il y avait plein de jeunes qui y allaient. On a retrouvé ce reportage, la fête du cinéma, pardon. On a retrouvé ce reportage du 26 juin 2005. La fête de la... Alors, c'était déjà à l'euro, hein, 2 euros la place, et on peut voir autant qu'on veut. Vous allez voir, il n'y a que des jeunes dans les salles de cinéma. On regarde.
Pour l'achat d'une place plein tarif, on vous remet un passeport. Chaque place suivante ne vous coûtera alors que 2 euros. Donc, pas de quoi se priver.
À 2 euros la place, je pense qu'on peut se risquer à aller voir des films moins intéressants. Quoi.
On va voir Sam et Roumoi, et la prochaine séance, ce sera à Travaux.
Ça permet d'élargir le choix du public, en tout cas, qui évite de se concentrer sur des Star Wars, sur des Sin City, sur des poupées russes qui sont évidemment très bien, mais qui mangeaient tout le marché. Et ben là, les gens vont voir un petit peu tout.
Alors Bruno de Kras, quand vous étiez jeune, il y avait plus de jeunes dans les salles de cinéma?
Je me rends pas compte, mais et puis il faut une offre. Hein. Je sais pas. Bon, il y a les films américains, les Marvel, les Batman, etc.
Mais c'est ça. Mais les jeunes, ils vont au cinéma pour voir les super-héros américains.
Oui, oui, surtout, je pense. Mais peut-être que ça manque d'offres. En tout cas, le cinéma français ne propose pas vraiment de films pour les jeunes. Ça, j'ai
remarqué. Est-ce que c'est pas le serpent qui se mord la queue? C'est parce qu'on sait que ce sont les seniors qui vont au cinéma. bah, du coup, on fait des films pour les seniors.
Oui et non, parce que les créateurs, vous voyez, y a un film, j'ai envie de dire atypique, Cédric Lapiche est un grand metteur en scène, il fait un film qui s'appelle Encore sur la danse, et le film marche et dépasse le million d'entrées. Donc, c'est toujours le mystère du cinéma grand écran et du 7e art, c'est qu'il y a des films inattendus qui fonctionnent, qui fonctionnent quand même dans les salles. Alors, pas avec 10 millions d'entrées comme autrefois pour les gros succès, mais après la pandémie, encore une fois, il y a ce chiffre, 24 millions d'entrées en 15 films français, je trouve que c'est pas mal quand même.
Alors, on a le hit parade là, des films records pour l'année 2021 en France. Bah, les trois premiers, c'est les Mourir peut attendre, donc le James Bond, Dune et Spider-Man. Ouais. Ça, ce sont des films qui attirent les jeunes.
Oui, bien sûr, ça, c'est ce qu'on appelle même des franchises. Hein. Que ce soit James Bond ou Spider-Man, c'est des franchises, c'est une marque. James Bond est une marque, Spider-Man est une marque, et on va avoir tous les deux ans, tous les trois ans, le nouveau film qui va arriver sur la plateforme. Juste petite parenthèse pour aller, pour compléter en fait ce que vous nous disiez, Axel, c'est il y a aussi beaucoup de studios qui mettent en fait le même film à disposition en salle et sur une plateforme. Donc, pour répondre à la question pourquoi les jeunes peut-être vont moins au cinéma. Donc, quand vous êtes un jeune, que vous êtes habitué justement à vivre dans cette économie numérique, où, comme vous le savez bien, tout vient à vous. C'est-à-dire que l'économie numérique, elle fonctionne aussi sur la fainéantise. C'est l'économie du confort. Je suis dans mon canapé, je me fais livrer à manger, on fait mon repassage pour moi, et puis je regarde un film. Donc, quand vous avez le même film, Matrix par exemple, qui peut être à la fois disponible en plateforme, donc à deux clics de votre télécommande, ou alors qu'il faut se déplacer, sortir de chez soi, aller en salle et puis payer 12 euros. Quel choix vous faites quand vous avez 22 ans et pas forcément beaucoup d'argent? Vous allez le regarder, justement, peut-être sur votre canapé. Je suis d'accord avec Bruno Kress, on n'a plus l'expérience. On n'aura plus ce côté, allez, viens, on se motive, on le regarde ensemble et on boit un verre, on en discute après. Même si cette expérience se renouvelle.
Il y a une individualisation de...
Oui, alors après, il faut voir les pratiques des jeunes. Si elles se enfin, des jeunes, on parle comme si on était tous vieux, mais en tout cas, les pratiques de l'usage, c'est que quelque part, elles se renouvellent. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'envoyer des textos en même temps qu'on regarde un film. D'accord. On va pouvoir chatter, on va pouvoir quand même aussi, malgré tout, regarder le film ensemble. C'est-à-dire que si on est dans une ou si on est en couple, ou si on est bon, avec des amis, on peut le regarder aussi à deux ou à trois, comme on regarde la télévision. Mais c'est totalement l'usage qui est en train de changer.
Gaël Simane, vous vouliez nuancer cette idée que les jeunes iraient moins au cinéma.
Alors, moins au cinéma, non, ça c'est incontestable. C'est la question de ne pas suggérer qu'ils vont moins, que le pourcentage de jeunes allant au cinéma est plus faible que celui des autres tranches d'âge. En fait, je rejoins tout à fait ce que vous disiez, ils ont l'habitude d'autres expériences, mais l'expérience cinéma, ils la connaissent. Quand on regarde la proportion de jeunes qui va au moins de temps en temps au cinéma, elle est là, elle est plus importante que celle de leurs aînés en réalité. Sauf que avant, quand nous étions jeunes, eh bien nous allions souvent au cinéma. Ah ouais. Donc en volume d'entrée, nous représentions dans les comptabilités du CNC, nous représentions les gros contingents de cinéphiles ou de personnes allant au cinéma. Aujourd'hui, le jeune, c'est drôle de le dire comme ça, il est dans son canapé, comme vous le décriviez, il regarde sa série ou il regarde sur son smartphone, et une fois, de temps en temps, une fois par an ou deux fois par an, il aura une expérience pour un truc qu'il va
alors, trouver... Alors, quel type de film
qu'il va trouver très intéressant. Bah, soit un film, on l'évoquait, où il va être en proximité avec des héros parce qu'on est sur des Marvel, par exemple, pour certains d'entre eux, et donc ça fait référence à quelque chose à quoi il est attaché, soit un film à l'inverse, qui va lui apporter quelque chose qu'il ne pourrait pas trouver sur Netflix. C'est ce que produisent ces plateformes sur le cinéma, encore une fois, c'est ce qui s'est passé dans l'économie, avec les termes brick and mortar and click and mortar. C'est l'obligation de se réinventer, parce que si on propose la même chose dans une salle de cinéma, le même ressenti, la même expérience que ce qu'on pourrait avoir sur son smartphone ou son ordinateur, non seulement les jeunes n'y mettront pas les pieds pour venir voir votre film, mais même les autres. Donc c'est cette réinvention à quoi obligent finalement les plateformes.
C'est vrai que Bruno Kress, les films à grand spectacle, à effets spéciaux, bon bah les voir sur un petit téléphone portable entre deux arrêts de bus, ça produit moins d'effet que être au cinéma avec un écran géant. Quoi.
Oui, absolument, c'est clair. Mais moi, en vous écoutant, je pense, où sont, alors, vous allez dire, ça fait vieux sage ou vieux CON, mais où sont les délivrances, les évolutionnistes coucou, les guépards, etc. Ça a apporté des choses quand même dans la culture, dans la pensée, dans l'âme, j'ai envie de dire, dans le côté humain. Et les Marvel, c'est autre chose, donc il faudrait un peu des deux. Moi, j'adore les grands spectacles, peut-être pas les Marvel, mais des pièges de cristal et autres. J'ai rien contre le grand spectacle, mais il faut aussi autre chose. Et le cinéma, ça apporte ça aussi.
Alors, quand Jérôme Sédoux dit, vous avez sûrement lu cette interview dans le Figaro, les gens, ils critiquent le cinéma français. Il dit, en France, il n'y a pas assez de talent pour produire 340 films par an. En France, il y a trop de films. Et il dit, les gens ne vont pas voir des films où ils s'ennuient. ça paraît deux évidences. Est-ce qu'en France, on produit trop et c'est trop éparpillé
Oui, et puis il y a un problème. Il y a 15 sorties, 15 à 20 sorties chaque mercredi. Il y a eu une inflation, ce n'était pas le cas. Il y a 20 ans, il y avait 5 ou 6 sorties. Comment voulez-vous que toute une partie des films ne se casse pas la figure? Et puis, moi, je dois reconnaître que ça dépend de l'offre. Très souvent, moi, je n'ai pas envie, le soir, devant la télévision, de regarder certains films français qui passent parce qu'ils ne sont pas extraordinaires et je préfère regarder une série. Donc, y a tout ce paradoxe. Il y a aussi dans les problèmes de chiffres, l'offre cinéma. Et là, peut-être qu'il a raison, Jérôme Sédou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une offre du côté du cinéma français qui est très attractive. Il n'y a pas toujours des films attractifs, on est d'accord.
Vous me disiez, on ne parle que des bons films qui représentent quoi, 5 à 10% de ce qui sort. Mais on n'a pas idée des navets qui sortent en France et que moi, je suis obligé de me coltiner.
C'est-à-dire que, oui, moi, je vois 300 films par an et de manière générale, hein, y compris des films étrangers américains, j'en vois 32 bons. Ouais. Ça fait 1 sur 10.
Oui. Et c'est que ceux dont
c'est
on parle.
Beaucoup, c'est pas beaucoup, oui, 30, allez, même 50, 60, mais sur... Il y a 600 films qui sortent par an aujourd'hui. 600 films qui sortent. Voilà, donc...
Il y a une totale profusion de l'offre. On l'a vu, Le cinéma, il y a une profusion de l'offre aussi sur toutes les plateformes. Quand vous êtes abonné à Canal+, quand vous êtes abonné à Netflix, à Amazon Prime, à Disney+, à Apple TV, que vous avez donc tout ce nombre de films qui arrivent au cinéma. Donc, ce qui est intéressant pour revenir peut-être à la question principale, c'est qu'il y a plus cette mécanique de la rareté qui suscite du désir. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, on allait au cinéma, on se disait, on va voir le dernier Tom Cruise, on va dire, on va voir le dernier Tarantino, etc. Là, déjà, tous ces comédiens, ces réalisateurs peuvent déjà expérimenter leur art sur d'autres plateformes. Des comédiens, vous pouvez avoir Depardieu, Depardieu, il a fait du Netflix, il était dans la série Marseille, donc c'est pas le dernier Depardieu qu'on attend au cinéma. Donc c'est-à-dire que cette idée qui motivait un déplacement en disant je vais voir le dernier film d'eux ou le dernier film de tel comédien, peut-être ce comédien, vous l'avez déjà vu sur votre plateforme à portée de main. Donc profusion de l'offre, moins de rareté, donc moins de désir. Et puis ça me rappelle une phrase de Steven Spielberg qui disait déjà il y a un certain nombre d'années, il ne faudrait pas que le cinéma devienne l'équivalent aujourd'hui de l'opéra. C'est-à-dire ce moment qui est un moment fort, expérience ultime, chère, et qui concerne qu'une toute petite de la population qui devient un petit peu une sorte de ghetto. Et on a l'impression que cette tendance-là, on en est encore loin, mais que cette tendance de se dire « je vais au cinéma exceptionnellement, aller une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois, voire une fois par an, une fois par an comme on peut le faire parfois à l'opéra, pour vivre un moment fort, un moment unique, un moment expérimental intense, si le cinéma devient ça, ça serait quand même très compliqué pour cette industrie qui a quand même besoin de vivre en salle et de s'expérimenter au quotidien. Il ne faudrait pas que le cinéma devienne extraordinaire.
Gare à l'élitisme, gare à la ghettoisation du cinéma. Et c'est vrai que l'un des plus grands succès du cinéma français en 2021, c'est un film dont on n'a sûrement pas parlé à Cannes et dont on ne parlera pas, c'était Les Tuches. Les Tuches, grand succès populaire. Voyez ce reportage à Lille en novembre dernier. Vous allez voir, là il y a du public, là il y a de l'engouement et là on va au cinéma.
Les Tuches, le retour. Hier soir à Lille, les acteurs du film ont été accueillis comme des stars.
Des frites ! Des frites ! Des frites ! Des frites !
Une avant-première devant 3000 spectateurs chauffés à blanc. Impatients de retrouver la joyeuse bande.
C'est sympa, le film il est dans la bonne continuité, un peu plus de magie.
Toutes les blagues, c'est un peu en rapport avec le 1, le 2 et le 3.
Est-ce que c'est ça que t'as bien aimé ?
Ouais, j'adorais.
C'est assez difficile de trouver aujourd'hui des films qui nous font autant rire.
Des films qui nous font autant rire. Ouais, j'ai adoré. Là, il y a plusieurs générations.
Mais moi, j'adore Les Tuches. Moi, ça
vous êtes bien le seul, parce qu'on a l'impression que c'est infamant d'aimer Les Tuches quand on est un professionnel du cinéma.
C'est du 4e, du 5e degré. C'est drôle, c'est potache. C'est gentil, c'est bienveillant. Il n'y a pas de vulgarité.
Mais on n'en veut pas,
j'aime bien Les Tuches.
Hein, on n'en veut pas.
Non, mais Cannes, c'est le cinéma. On l'a dit hier, ici, sur cette même antenne. Cannes, c'est du cinéma intello. Cannes, c'est le festival des sciences humaines. Si vous ne faites pas un film philosophique, politique, économique, social ou métaphysique, vous n'allez pas à Cannes. Mais ça fait partie du jeu. En même temps, c'est l'écho du monde, je disais tout à l'heure. C'est passionnant, Cannes. Non, Les Tuches ne vont pas à Cannes. Mais même Amélie Poulain, qui est un joli film, ne va pas à Cannes. C'est un film de distraction pure.
Et comme Jérôme Sédou, je reviens sur cette phrase, les gens ne vont pas voir des films où ils s'ennuient. Ils préfèrent aller voir Les Tuches. Est-ce que ce n'est pas en creux une critique sur le snobisme, je veux dire le mot, du milieu du cinéma ?
Après là, on arrive sur des jugements de valeur. C'est quoi l'ennui ?
C'est quoi l'ennui ?
Enfin, je sais pas. Ça me paraît compliqué comme phrase parce que ce qui est sûr, c'est que pour revenir à la dichotomie plateforme cinéma, sur une plateforme, on peut tuer l'ennui. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vous ennuie, vous accélérez. Je vous rappelle que Netflix a mis en place une application qui permet de regarder le film 50% plus rapide. De regarder le film un peu en accéléré.
On peut accélérer.
C'est un usage. Oui, c'est un usage. On peut se dire, tiens, ça commence à être un petit peu long la séquence, et on regarde et on accélère. Donc la plateforme, elle est là pour capter l'attention, pour capter l'audience. Le cinéma, c'est une audience qui est déjà captive quelque part. Quand vous allez en salle, vous rentrez dans une salle. Normalement, à l'époque, d'ailleurs, vous n'aviez pas votre téléphone portable, il ne sonnait même pas. Hein, c'était même pas la peine de le mettre en avion. Donc, votre esprit était immobilisé, était consacré, était dédié à un moment qui était une heure et demie,
c'est
deux
heures.
C'est
encore le cas, ça.
Mais moi, regardez aussi l'usage des gens en salle de cinéma. Moi, parfois, je vois des gens en train de consulter leurs textos, leurs mails, etc., même en salle, parce que ça arrive, parce qu'ils sont alertés, rattrapés par la vie connectée, la vie numérique.
Ils ont un peu honte ou pas ? Non.
Parce que tu es en silencieux, tu regardes le truc, et puis ça devient l'usage, puisqu'aujourd'hui, on est quand même dans une culture du zapping, c'est-à-dire qu'on peut regarder Netflix tout en répondant à un texto, tout en regardant ses mails. Donc, on a tendance, justement, et puis toutes les applications sont faites pour ça, pour nous rendre le plus connectés possible. Donc sur l'ennui, la plateforme met en place des outils pour tenter de le tuer, pour faire en sorte que l'audience s'ennuie de moins en moins pour qu'elle reste de plus en plus sur l'écran. Mais le cinéma, justement, mais en même temps, l'ennui est une expérience.
Mais vous avez raison, mais attendez, mais moi j'ai vu des
l'ennui
films...
L'ennui est une expérience,
bien sûr. Mais vous avez absolument raison. Moi j'ai vu des films dans ma carrière où il y avait un plan fixe pendant deux heures. Et c'était une œuvre.
Oui.
Les films de Chantal Akerman, parfois, Jane Dielman, je ne sais pas combien, Kate Bruxelles, etc. Mais et qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est vrai qu'il y a plus
si on ne devait
aujourd'hui
regarder qu'une œuvre, qu'elle soit en littérature, en théâtre, à l'opéra, etc., sans aucun ennui, on ne regarderait plus rien. L'art, ça n'est pas que du pur plaisir. N'allons plus au musée à ce moment-là. Et moi, quand je vois un portable s'éclairer dans une salle de cinéma, je suis fou furieux. Je suis capable de crier « Portable !» Non, mais ça me rend fou. Mais ça me rend
sécurité
fou. Pas sécurité, je n'en suis pas là, mais portable. Non, mais c'est n'importe quoi. Et vous avez raison, l'ennui, c'est même pas une expérience. C'est que parfois, vous regardez une œuvre, il y a des plans longs, je sais pas, je pense à Tarkovsky, je pense à Bergman, je pense même à Visconti, et c'est magnifique, ça vous reste toute la vie, même si vous êtes ennuyé, ça fait partie du jeu.
Ces grandes œuvres qui ont accompagné le festival de Cannes, dont c'est cette année la 75e édition. Cannes, toute une ambiance, un tapis rouge, des paillettes, une ambiance de fête. Cannes, un festival devenu culte. On revoit ces images sur l'histoire de Cannes au travers des ans avec Christophe Hérault et Laurence Piquet.
20 septembre 1946, un hydravion se pose dans la baie de Cannes. Hollywood a envoyé ses vedettes.
Pour trois semaines, Cannes est devenue la capitale du cinéma international.
Le ton est donné. Depuis, le rituel se répète. Un tapis rouge, des photographes, des stars, la rivière s'enflamme. Et dans les salles obscures, place aux projections. Avec son glamour, ses scandales et ses cris de colère, le festival est devenu culte. Les premières éditions du festival se déroulent dans l'immédiate après-guerre. Alors, il faut du glamour. Le cinéma crée la star, Cannes se doit de l'accueillir en grande pompe. C'est l'époque de l'insouciance, Michel Morgan sur le sable, Jane Mansfield fait sa gym en bateau, et Sophia Loren échappe en souriant au paparazzi. Elle se souvient de cet âge d'or.
Cannes, pour moi, c'est tellement de choses, de souvenirs, d'émotions. La première fois, j'avais 18 ans. Je me promenais dans les rues de Cannes avec ma mère et tout le monde m'applaudissait.
Le glamour n'est pas mort. Aujourd'hui encore, pour monter les marches, c'est tout un chantier.
La première fois que j'ai monté les marches, je me suis dit que c'était comme pour un mariage, en fait. J'avais l'impression de me marier.
Mais maquillage, coiffure ne résume pas Cannes. Pour bâtir un mythe, il nous faut un parfum de scandale.
C'est un scandale. Un scandale. Ça gagne du pognon, ça.
Des cris offusqués ont souvent retenti dans le palais après la projection de films jugés de mauvais goût. Palme d'or pour la grande bouffe, trop vulgaire, pourtant, le film caricature la société de consommation. Grand prix de la colère pour Maurice Pialla. C'est un cinéaste radical que le public siffle et le rend bien.
Et si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus.
Et prix spécial du jury pour Gaspard Noé, sa vision du sexe provoque et dérange.
Quand
dehors des scènes de sexe, il aligne des platitudes, ça fait peur.
Je comprends absolument pas pourquoi il a fait ce film.
Cette année, il est certain que le festival aura son parfum de glamour, ses scandales, mais les esprits seront surtout tournés vers l'Ukraine. Cannes, c'est un certain reflet du monde.
Alors justement, on retourne à Cannes avec notre journaliste Alexandre Le Quéré. Bonjour Alexandre. Alors, que voit-on à Cannes? Est-ce que Cannes est toujours the place to be pour cette 75e édition?
Ben évidemment, il n'y a plus qu'à voir le tapis rouge hier pour l'ouverture de cette 75e édition. Évidemment, c'est le moment où la planète cinéma se regroupe, même si effectivement Cannes a un peu perdu de sa superbe peut-être par rapport à d'autres festivals. Mais en ce moment-là, tout de suite, effectivement, c'est là où la planète cinéma se retrouve. C'est là où toutes les stars convergent, à commencer par Tom Cruise qui sera là dès cet après-midi. Il n'est pas venu depuis 30 ans. Et s'il est là aujourd'hui à Cannes, ce n'est pas pour rien. C'est parce que vraiment, c'est the place to be.
L'engouement du public, est-ce qu'il est toujours là sur la croisette? Et qui est ce public? Ce sont des jeunes, des badauds, des...
Alors c'est beaucoup de badauds, beaucoup de cannois qui, quoi qu'on en dise, sont toujours assez étonnés par ce défilé de voitures, de robes de soirée et puis de smoking. Et beaucoup de touristes également, parce que moi ce que j'ai remarqué depuis que je suis à Cannes, c'est le retour des touristes internationaux. Il y a des Européens, il y a des Américains, il y en a qui viennent pour le festival, mais il y en a qui sont aussi tout simplement en vacances sur la Côte d'Azur. Et tous ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent devant les Cannes. Devant les marches de Cannes. Hier j'étais dans la rue et puis j'entendais une dame qui disait: mais elles sont où les marches? En fait, elles étaient juste en face d'elle, mais de l'autre côté de la rue, mais avec le monde, avec les barrières, avec la sécurité, elle les avait même pas remarquées. Donc c'est pour dire que ça attire beaucoup de monde.
Donc toujours une ambiance festive, ces paillettes. Au fond, c'est presque autant le cinéma que l'ambiance quand on va à Cannes, non ?
C'est ça, mais alors par contre, évidemment, tous ces gens qui regardent dans la rue et qui attendent d'apercevoir une star descendre d'une limousine, elles n'iront pas voir les films. Parce qu'il faut rappeler que Cannes, c'est un festival de professionnels, en fait. On est dans une foire du cinéma, de quelque façon qu'on parle. Donc évidemment, ces gens-là, ils n'iront jamais voir un film. C'est pas fait pour ça. Cannes, c'est fait vraiment pour les professionnels, pour cet écosystème du cinéma, les producteurs, les techniciens, les acteurs, les réalisateurs qui se rencontrent, qui se montrent et puis qui travaillent, puisqu'on fait des affaires à Cannes. On achète des films, on essaie d'en distribuer. Et puis pour les comédiens, on essaie de se placer pour d'autres productions plus tard ou les réalisateurs. Donc en fait, il y a vraiment deux ambiances. D'un côté, dans le palais, le côté professionnel, dans les soirées également, le soir sur la croisette. Et puis il y a les badauds. Et puis il y a encore, de notre façon, un peu les starlettes. Aujourd'hui, ce sont les influenceuses et les influenceurs Instagram qui ont remplacé les starlettes d'autrefois. Et ça, c'est encore une troisième ambiance, puisqu'on est là aussi pour se montrer sur la croisette à Cannes, quand il y a beaucoup de monde, du soleil et des paillettes.
Merci beaucoup Alexandre Le Quéré, donc notre journaliste à France Télévisions à Cannes, et bon film. Bruno Kras, on est content de voir qu'il y a Tom Cruise qui est venu avec son jet, je crois, parce qu'on s'interrogeait justement sur la capacité de Cannes à attirer les grandes stars mythiques qui ont fait ce festival.
Ah oui, mais lui, il a mis du temps, parce que la dernière fois qu'il est venu, c'était jour pour jour, il y a 30 ans, pour présenter Horizon Lointain. Il était au bras de Nicole Kidman, mais surtout le Top Gun, c'était il y a 36 ans, il avait 24 ans, il n'était pas connu. Et Top Gun l'a fait éclater au niveau mondial il y a 36 ans. Et donc, c'est une suite qui intervient, Top Gun Maverick, 36 ans après le festival, après le premier Top Gun. Donc il est attendu comme...
Et Cannes va bien le recevoir.
Ah, mais Cannes, mais oui, sauf qu'il fait un voyage éclair. J'ai entendu dire qu'il passait, il dort même pas à Cannes, et il irait, je dis bien au conditionnel, voir le jubilé d'Elisabeth en Angleterre. Ah ouais. Alors si c'est le cas, pourquoi? Parce que là aussi, résonance mondiale, le jubilé, dont Tom Cruise, la promo, il sait faire. Il sait faire. De toute façon, Tom Cruise est aujourd'hui encore aux États-Unis. Il va fêter 60 ans le 4 juillet prochain, une des plus grandes stars et une des mieux payées. Voilà, donc ce sera, sans se tromper, la plus grande star du festival et elle arrive aujourd'hui sur Cannes.
Gaëlle Sliman, on va parler un petit peu de nous. Festival de Cannes, diffusé maintenant sur France Télévisions, sur France 2. Ça change peut-être d'ailleurs dans la démocratisation de ce festival dont on soulignait tout à l'heure parfois le risque d'une ghettoisation et d'un élitisme.
Oui, ça change par rapport au risque opéra. Ouais. Dans notre enquête, on a mesuré la part de Français qui avaient envie de suivre le festival sur ses antennes,
France
et puis sur France Télévisions et sur Brut aussi. Et on est à 3 personnes sur 10. Si ça se confirme, quant à ceux qui sont certains de le faire avec une certaine récurrence, ça oscillerait entre une multiplication par 3 et peut-être jusqu'à une multiplication par 10 de l'exposition par rapport à ce qu'elle avait été les années précédentes et notamment l'année dernière. C'était devenu quelque chose entre les années du grand canal qui suivait le festival, où il y avait des happenings permanents avec Antoine Decaune, Joël Garcia, Pierre Lescure autour de Cannes. Et la période récente, on a eu une lente érosion de la visibilité de l'exposition de Cannes, et c'est vrai que ça se refermait. Donc là, c'est une opportunité. C'est pour ça que on avait, dans l'analyse de nos données, on avait titré que le suivi de Cannes pouvait peut-être aider à rebooster un cinéma qui était plutôt en perte de vitesse.
Alors Cannes, ce sont les paillettes, les starlettes, la joie. Sauf qu'on a vu que le monde du cinéma avait un envers peu ragoûtant. Je pense bien sûr aux affaires de harcèlement qui ont été symbolisées par Harvey Weinstein. On en parle d'ailleurs juste après, mais sur est-ce que ça a eu un impact sur notre vision qu'on a du monde du cinéma. Mais on regarde d'abord ce reportage du 6 janvier 2020. C'était le procès d'Harvey Weinstein.
Il régnait sur Hollywood, faisant ou défaisant des carrières d'actrice. Harvey Weinstein arrive aujourd'hui en déambulateur à la cour de New York. Ses détracteurs disent que c'est du cinéma. Il s'est fait opérer du dos il y a plusieurs semaines. À l'extérieur du tribunal, un comité d'accueil virulent. Des femmes comme l'actrice Rose McGowan, l'une des premières à avoir brisé l'omerta.
Cher Harvey, aujourd'hui Dame Justice se penche sur un super prédateur. Toi.
Près de 90 femmes ont porté des accusations contre le producteur. Pourtant, seules les plaintes de deux d'entre elles seront jugées durant ce procès pour agression sexuelle et viol. L'actrice Rosanna Arquette nous confie sa déception.
C'est très frustrant, oui. Il ne devrait pas y avoir de délai de prescription en matière de viol.
De plus, selon les témoignages, l'équipe Weinstein a réussi à discréditer, effrayer et surtout acheter les victimes. Le producteur a dépensé 25 millions de dollars en arrangements financiers.
Bruno Kras, quelle a été votre réaction quand vous avez appris ça? Vous disiez, on savait, il y avait des bruits, mais on ne disait rien, ou bien vous êtes tombé de la chaise?
Moi, je suis plutôt tombé de la chaise parce que j'étais pas au courant, mais on s'aperçoit avec le recul que beaucoup de gens étaient au courant. Il y avait une omerta, mais il était très puissant. C'était un très bon producteur. Il a eu à son actif plusieurs palmes d'or. Donc personne ne disait rien, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient au courant. Ils le disent aujourd'hui. Les langues se délient. Il y avait beaucoup de gens qui étaient au courant. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, en tant que petit journaliste, j'étais au courant de rien. Mais voilà, il régnait vraiment. C'était le patron du cinéma et les gens avaient peur de lui.
François Saltiel, cette affaire a donné MeToo, hein, qui est Balance ton porc, qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux en France. Vous parliez tout à l'heure c'était Alexandre Lequéré qui parlait tout à l'heure des influenceuses. Est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les stars s'expriment beaucoup sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça change notre regard qu'on a des stars? Autrefois, elles étaient inaccessibles sur des papiers glacés, c'était Vogue ou Paris Match. Maintenant, on est dans leur cuisine, on les voit en train de se... quasiment de s'épiler dans leur salle de bain.
Oui, effectivement, il y a eu un changement de paradigme par rapport à l'image de la star, qui était effectivement où on divulguait sa vie privée sur la presse People, etc. Mais en même temps, il y avait ce côté, la star était de loin, on était fan, on essayait justement d'aller à Cannes pour tenter de l'approcher, de la toucher. Aujourd'hui, on a bien vu que le processus de communication de ces nouvelles stars a totalement changé, puisqu'ils maîtrisent, là encore une fois, leur communication et leur récit par leurs propres médias. Ils n'ont plus besoin de passer par des presse People ou parfois faire des paparazzas, des fausses scoops pour pouvoir communiquer. Ils le font directement avec leur communauté, parfois même ils leur répondent, ils répondent aux commentaires, donc on a une dimension beaucoup plus accessible. Et on voit justement dans la manière dont le Festival de Cannes change, alors vous le disiez, une démocratisation, vous parliez de France Télévisions, donc une chaîne plus grand public, même si les phases de Canal+ étaient en clair, et puis Brut, c'est intéressant quand même, c'est aussi une plateforme qui fonctionne sur les réseaux sociaux et qui va offrir aussi une autre visibilité de Cannes et un autre accès aux images, etc. Donc on voit que le Festival essaye aussi d'embrasser les codes de l'époque. Et quand vous parlez d'Harvey Weinstein, on peut dire que c'est un peu l'ancien monde, hein. C'était celui des prédateurs, des hommes tout puissants. Enfin, quand je dis ancien monde, ça n'a peut-être pas totalement disparu, mais du moins, il y a toute une jeunesse qui ne se retrouve plus aussi dans ce côté du cinéma un peu à l'ancienne, où sont des hommes qui prennent le pouvoir, qui installent leur propre récit, qui installent leur code avec des femmes qui sont juste l'égérie de l'un ou de l'autre, mais qui n'ont pas forcément toutes leurs dimensions. Et puis, quand vous parlez justement de Tom Cruise, vous voyez, les deux motivations de la jeunesse aujourd'hui, c'est l'environnement, préservation de l'environnement, et puis les causes, on va dire, sociales, féminisme, respect des droits des femmes et des minorités. Et je ne sais pas justement si Cannes ne doit pas, quand on parlait de Tom Cruise qui va faire 3 heures à Cannes, qui va peut-être arriver en avion, repartir en avion, on a beaucoup parlé aussi des sponsors qui entourent aussi le Festival de Cannes pendant longtemps, qui était L'Oréal, etc., qui ne sont pas forcément les codes de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi que ce festival-là, et il me semble qu'il est en train de le faire, arrive à casser son image dont on a parlé au début de cette émission, un peu bling-bling et puis un peu néfaste, c'est-à-dire de la paillette, du show-off, au détriment soit de la planète, soit des minorités ou des femmes. Et le festival est en train de revoir ça. Et je pense que c'est assez intéressant et ça participe justement à cette nouvelle image, que ce soit avec France Télévisions ou avec Brut.
Voilà, ce festival de Cannes, donc toujours aussi célèbre, est en pleine réinvention. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et donc, je rappelle, le festival de Cannes, c'est tous les soirs sur France 2, hein, désormais. Vous restez sur France Info et on se retrouve demain pour une nouvelle émission, un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée et à demain.